Eh bien, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci encore de nous avoir gardés tout au long de l'année 2019. Merci encore de nous avoir gardés tout au long de cette semaine, de nous avoir protégés, de nous avoir guidés, nous avoir conduits même jusqu'ici ce matin. Merci de parler encore à nos cœurs, de conduire vraiment ces moments. Je veux te prier aussi particulièrement pour les jeunes qui sont en bas, qui ont cet enseignement avec notre frère Philippe Calam. Je veux te prier aussi pour les enfants, Seigneur, que tu puisses aussi être avec eux, que tu puisses encore parler à nos cœurs, dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Personne n'a pu échapper cette semaine à de tristes nouvelles. On ouvre la radio, on ouvre le journal, il y a eu plein de mauvaises nouvelles. Et malheureusement, plus on avance et plus on se dit, bah mince, les mauvaises nouvelles vont-elles continuer comme ça? Peut-être que dans votre vie personnelle, eh bien, vous avez reçu des coups de fil ou peut-être un email qui vous a annoncé des mauvaises nouvelles. Et peut-être comme cette jeune que j'ai rencontrée cette semaine, qui m'a dit, à qui j'ai souhaité une bonne année, m'a dit blasé, l'année a mal fini, mais a mal commencé. Et je ne sais pas ce que va donner l'avenir. Alors, bonne année. Eh bien, peut-être que ce matin, vous vous dites peut-être la même chose. Vous dites, mais qu'est-ce que va être notre avenir? Est-ce que l'avenir va être bon ou est-ce qu'il va être mauvais? Si ça continue comme ça, eh bien, dis donc. On entend des bruits de guerre, de catastrophes, de tensions sociales. Il y a des maladies, il y a de la violence. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent, n'est-ce pas, nous miner le moral. Mais ce matin, j'aimerais que l'on puisse regarder à autre chose, qu'on puisse voir une espérance dans tout ce qui peut-être nous amène à nous plomber, nous amène à être triste, à être malheureux. Quelle réaction avons-nous face à l'avenir? Est-ce que l'on est du genre à faire l'autruche, c'est-à-dire à mettre notre tête dans un trou et pas regarder ce qu'il y a autour et dire « bah voilà, c'est normal, ça arrive » et puis on laisse le temps couler? Ou est-ce que on est du genre à faire des plans, à nous dire « bah voilà, là il y a peut-être un avenir un peu incertain, mais on va mettre en place des choses pour que dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, eh bien, on aura un avenir meilleur. » Est-ce qu'on est des gens qui réfléchissons à notre carrière, à notre épargne, à chercher le moyen de rencontrer l'amour, à rêver à des choses peu probables, à être des gens utopistes? Ça existe? Des gens qui rêvent d'un avenir. Vous savez, en l'an 2000, ce que l'on pensait de l'an 2020, et vous savez ce que l'on pensait en 1990 de l'an 2000, eh bien, ce n'est pas du tout ce qui arrive. Alors, il y a des choses qui existent, mais il y a des choses qui n'existent pas du tout. Il n'y a pas encore de voiture volante. Il n'y a pas, voilà, tout un tas de choses. Quelle réaction avons-nous face à l'avenir? Et une autre question ce matin. Quelle emprise pensons-nous avoir sur l'avenir? Quelle emprise pensons-nous avoir sur l'avenir? J'aimerais ce matin, pour nous guider dans cette réflexion, regarder un texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 44. Ésaïe au chapitre 44. Nous lirons le chapitre du verset 1 au verset 8 et nous lirons ensuite, nous sauterons le passage et nous irons ensuite du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre 44. Écoute maintenant Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a façonné dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, sois sans crainte mon serviteur Jacob, Yeshurun, que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils germeront au beau milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira « Je suis à l'Éternel », celui-là se réclamera du nom de Jacob, cet autre écrira sur sa main « À l'Éternel » et se parera du nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète, l'Éternel des armées. « Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui peut se prononcer comme moi? Qui l'annonce et me l'expose? Depuis que j'ai fondé le peuple d'éternité, qu'ils annoncent donc les événements et aussi ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas depuis toujours fait entendre et annoncer « Vous êtes mes témoins » Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais pas. » On saute au verset 21. Souviens-toi de cela, Jacob, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois un serviteur pour moi. Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, lancez des acclamations, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, poussez des clameurs. Montagnes, éclatez en acclamations. Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il manifeste sa gloire à Israël. Ainsi parle l'Éternel qui te rachète, celui qui t'a façonné dès ta naissance. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Seul, je déploie les cieux. De moi-même, j'étends la terre. Il anéantit les signes mensongers et il affole les devins. Il fait reculer les sages et il retourne leur science en déraison. Il confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Il dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'eau profonde, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis à Cyrus, mon berger, il accomplira tous mes désirs. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Écoute, voilà le mot préféré d'un parent à un enfant. Écoute. Écoute, mon fils, ou écoute, ma fille. Ce que je te dis, c'est important. Écoute. Peut-être le mot le plus détesté par l'enfant. Par l'enfant qui est sûrement repris dans sa conscience, sûrement repris dans son attitude. Ah non! L'enfant à qui on dit « écoute » qui détourne le regard. « Regarde-moi dans les yeux » et qui regarde ailleurs. « Non, j'ai pas envie de t'écouter, je préfère faire ma bêtise. » Écoute. L'histoire du peuple d'Israël est remplie de péripéties. Tant qu'Israël écoute Dieu, tout va bien. Tant qu'Israël suit les plans de Dieu, tout va bien. Mais quand Israël décide de ne plus l'écouter, tout va mal. Et tout va très mal. C'est comme s'il y avait, Israël jouait un petit peu aux montagnes russes. Vous savez, Tout va très bien avec Dieu, on l'écoute, alors on est au haut du sommet. Et puis, tout va mal, alors c'est dégringolade totale. Ésaïe parle à un peuple qui est dans la dégringolade, qui essaye de remonter, mais qui veut en faire qu'à sa tête. Tout ce que dit Ésaïe de la part de l'Éternel, ça passe par là et ça sort de l'autre côté aussi vite. Ils essayent d'écouter, mais ils n'y arrivent pas. Ils sont attachés à d'autres choses qui attirent leur cœur, d'autres choses qui est plus important que la parole de l'Éternel. Et Dieu a maintes reprises, par la bouche d'Ésaïe, par la bouche d'autres prophètes, va les prévenir, va leur dire, écoute Israël, attention, écoute, attention. Mais Israël n'écoute pas, jusqu'à un moment donné. Vous savez, quand un enfant fait une bêtise, et le papa ou la maman arrive au bout de sa patience et dit à un moment donné, stop, ça suffit. Eh bien, Dieu arrive, pas au bout de sa patience, mais au bout du raisonnable, et dit, stop, ça suffit, tu ne m'écoutes pas, eh bien, il faut que tu comprennes maintenant qu'il est important que tu m'écoutes. Et il lui envoie des épreuves. Et il le prévient, voilà, que la terre promise sur laquelle Dieu l'avait conduit, eh bien, va lui être retirée. Il va être déporté, enlevé loin de cette terre. Des peuples vont arriver et vont l'asservir. C'est déjà le cas par les Assyriens et ça va être le cas par les Babyloniens. Ils vont être asservis. Ces conséquences vont être terribles pour le peuple d'Israël. Ça va leur apporter de la tristesse, peut-être même de l'angoisse. Et quand le peuple entend ces paroles, eh bien, il est dans la tristesse. Parce que les paroles de Dieu sont terribles. Si on prend juste le verset 28 du chapitre 43, prenons même le verset 27. « Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du lieu saint, j'ai livré Jacob à l'interdit et Israël aux outrages. » Parole terrible. Et c'est là que le verset 1 vient apporter de la lumière, vient apporter de l'espérance dans ces paroles terribles. Écoute, maintenant, écoute-moi. Écoute Israël, Jacob, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a façonné. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce mot. Ce mot revient à plusieurs reprises dans le passage que l'on a lu. 3 à 4 fois, qui t'a façonné, qui t'a créé, qui t'a fait. Qui t'a choisi. Dieu parle à son peuple. Dieu parle à Jacob. Jacob, c'est le nom de naissance du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël vient de Jacob, qui est le fils d'Isaac, un des deux fils d'Isaac, celui qui a reçu la bénédiction face à son frère Ésaü, celui qui, par son nom, a un nom qui signifie « supplanteur », qui signifie « talonneur » ou « usurpateur ». Et on voit dans tout le début de la vie de Jacob, ça a été ça. Il a pris l'héritage à son frère, le droit d'aînesse. Il a supplanté son frère. Celui qui est trompeur. Mais regardez le deuxième nom que Dieu donne à Israël. Yeshurun. Et Yeshurun, ça veut dire redresser. Ça veut dire celui qui a été relevé. C'était un usurpateur. Mais il a été relevé. Il a été redressé, mis... Vous savez, quand vous essayez de redresser une plante, eh bien, c'est ce que Dieu a fait avec Jacob. Il a redressé. Il a mis sur une bonne voie. Il lui a donné un nouveau nom, le nom d'Israël. Yeshurun. Il a opéré des rectifications dans sa vie. Il a opéré des transformations non seulement dans la vie de Jacob, mais dans la vie de son peuple, pour le conduire jusqu'à cette terre promise. Dieu prend soin, veille, et a veillé sur Jacob, a veillé et veille encore sur son peuple. L'Éternel est présenté dans ce passage que nous avons lu dans ce chapitre 44 comme le roi d'Israël, comme le maître de l'univers, comme le premier et le dernier, comme le rocher, comme l'auteur de tout. Il est présenté comme celui, je l'ai dit tout à l'heure, comme celui qui a choisi, formé, soutenu, délivré, fondé, informé d'avance, effacé les crimes et manifesté la gloire, manifesté sa gloire pour le peuple d'Israël. L'Éternel est celui qui est dès le départ, celui qui a choisi son serviteur, qu'il a élu. Est-ce que Israël était quelqu'un de particulier, quelqu'un qui avait fait des grandes choses? Par son nom Jacob, on peut voir que c'était quelqu'un de détestable, quelqu'un qui ne méritait sûrement pas qu'on s'intéresse à lui. Et pourtant, Dieu a choisi Jacob, a choisi sa descendance et a veillé sur lui et est allé jusqu'à lui donner toutes ses bénédictions. Si on s'arrête là et qu'on fait le parallèle avec notre vie, on peut voir les mêmes choses. Dieu nous a choisis dans son Fils Jésus-Christ. Nous n'étions pas aimables, mais détestables. Et Dieu, pourtant, a porté sur nous son regard. Dieu nous aime. Dieu nous a élus. Il nous a choisis. Quelle grâce! Il nous donne toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Quelle grâce encore! Il est allé plus loin que ça avec Jacob. Il le rachète. Il efface ses transgressions. Il est son rédempteur. Jésus-Christ est notre rédempteur. Jésus-Christ est celui qui nous a rachetés de notre péché en payant de son sang à la croix. Il a payé le prix nécessaire en mourant pour moi, en mourant pour chacun d'entre nous. Dieu, enfin, est souverain. Il est souverain de son histoire, comme il est souverain sur ce monde. Il est souverain du peuple d'Israël. Il lui dit, oui, tu vas être déplacé. Tu vas payer sûrement les conséquences de ta désobéissance. Mais toutes ces choses-là, c'est pour que tu comprennes que je suis ce Dieu qui t'aime. Ce Dieu qui prend soin de toi et regarde ce que je vais faire encore plus pour toi. Oui, je prévois l'épreuve, mais regarde ce que je prévois la délivrance. Et regardez à la fin du chapitre 44. Il confirme sa parole, la parole de son serviteur, et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Il dit à Jérusalem, qui était complètement désertée, « Tu seras habité. Les villes de Juda vont être rebâties. Les ruines vont être relevées. » Il prépare même le moyen comment Israël va être délivré. Verset 27, « Je dis à l'eau profonde, dessèche-toi, je tarirai les fleuves. » Et si on regarde dans l'histoire, eh bien quand Cyrus est arrivé, eh bien il a desséché le Jourdain et il est rentré dans Jérusalem en desséchant le Jourdain. Et il prévoit même celui qui va délivrer. Je dis à Cyrus, mon berger, il accomplira tous mes désirs. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Est-ce que vous savez quand est-ce que ce texte a été écrit et quand est-ce que ce texte a été accompli? Eh bien, des années et des années avant, et des années et des années après, cela a été accompli. Exactement comme ça a été écrit. Dieu est souverain. Dieu règne. Nous n'avons pas à craindre de ce qui peut se passer ou de ce qui peut nous être retiré ou enlevé, quoi que ce soit. Dieu est au contrôle de ce monde. Et c'est cette vérité qu'il nous faut garder. C'est cette vérité qu'il nous faut chérir quand nous passons par des difficultés ou quand nous lisons des choses terribles dans les journaux. Dieu est au contrôle. Dieu règne. Et il ne laisse pas arriver quelque chose sans que ce ne soit dans sa volonté. Il dit, et elle arrive. Et s'il laisse, c'est pour nous apprendre quelque chose. C'est pour que nous puissions retirer des leçons. Dieu est au contrôle. Je n'ai pas lu les versets 9 à 20, mais je vous invite à les lire chez vous. Prenez le temps de lire ces versets. Je vais vous les résumer en quelques mots. J'espère que ça vous donnera l'eau à la bouche. Dans ces versets, Dieu se présente comme étant celui qui est au-dessus des idoles. Vous savez, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Moi, vous savez, quand ça ne va pas, eh ben, j'aime bien me mettre devant un bon film pour oublier. Ou quand ça ne va pas, me mettre dans un bon livre pour, voilà, oublier tout le reste et me plonger dans autre chose. Je fais l'autruche. Mais on a tous nos petites choses quand ça ne va pas. Ce que Dieu nous invite à faire, c'est de ne pas regarder à des choses qui nous détournent de lui, mais à regarder à lui, à lever nos regards vers lui et lui faire confiance et rappeler à notre cœur qu'il est au contrôle. Il est au contrôle. J'ai sûrement donné déjà cette illustration, vous savez, de ce petit garçon qui est dans le bateau. Et il y a une forte tempête. Et la tempête va à droite, à gauche, le vent souffle. Et là, tout le monde est apeuré dans le bateau. Et là, tout le monde aussi est surpris de ce petit garçon-là qui est au fond de cale et qui est tout sourire. Ça va, mon garçon ? Tu n'as pas peur ? Non, c'est mon papa le capitaine. Eh bien, voilà notre état d'esprit pour l'année 2020. Si ça ne va pas, eh bien, je sais que mon papa est aux commandes. Mon Père céleste est aux commandes. Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour confronter l'avenir? Eh bien, ce que je viens de vous dire, Dieu est souverain, Dieu est au contrôle. Mais j'aimerais également vous laisser le verset 22. Que ça soit un verset qui puisse être gravé sur notre cœur. Quand ça ne va pas, nous rappeler ce verset. J'ai effacé tes crimes comme un nuage. Et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. On le relit ? J'ai effacé tes crimes comme un nuage. Et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Voilà ce que le Seigneur nous demande de faire. Quand ça ne va pas, de ne pas regarder à droite et à gauche, de ne pas chercher à oublier ce qui ne va pas, mais à affronter la réalité, à regarder à lui et venir à lui, lui déposer nos fardeaux, lui déposer nos soucis. Voilà ce qu'il nous demande de faire. Venir à lui, revenir à lui. Nous ne devons pas nous laisser avoir par ces pensées de culpabilité. Mais comment tu peux venir à Dieu alors que tu viens de maudire ton frère il y a 5 minutes? Comment tu peux venir à Dieu alors que tu viens de commettre ceci il y a 2 minutes? J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Je ne sais pas, vous savez, quand on lève les yeux au ciel et qu'on voit les nuages, on peut se demander, mais comment il efface? Mais regardez comment un nuage part vite, comme une nuée, 2 secondes avant elle est là, et peut-être quelques minutes plus tard, elle n'est plus là. Eh bien, Dieu agit de la même manière avec nos péchés. Et il veut nous armer de cette vérité. Il est notre Rédempteur. Il nous a rachetés. Il nous a donné Jésus-Christ. Quelle grâce et quelle bénédiction. Alors, avant de prier, j'aimerais tout simplement relire ce verset. J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Eh bien, prions. Seigneur, merci encore pour cette invitation que tu nous fais ce matin, de venir à toi, tel que nous sommes. Tu connais nos pensées, tu connais nos craintes, tu connais nos luttes. Et Seigneur, je veux te dire merci parce que tu as tout pris. Tu as tout payé par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Merci de nous avoir rachetés. Merci de nous avoir donné ton Fils, qui a pris sur lui toutes nos fautes, Merci de nous inviter à venir à toi chaque jour, à ne pas avoir peur de ton regard, mais à te voir comme ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui prend soin de nous. Rappelle-nous cette vérité. Donne-nous chaque jour de cette année 2020 de venir à toi. Donne-nous d'espérer en toi, de grandir avec toi. Dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien, nous arrivons à la fin de notre culte. J'aime toujours terminer par un chant, mais on n'a pas de pianiste là. Mais voilà, juste vous laisser ce verset encore une fois. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Bon dimanche à chacun et que le Seigneur bénisse votre semaine.